Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, la médecine est-elle un art ou une science? Voilà une question qui pourrait bien figurer au bac de philosophie. C'est en tout cas la question que s'est posée Jacques Poirier, professeur à la faculté de médecine, praticien hospitalier. Son texte a ensuite été publié par le Bureau des Longitudes et par l'Académie des Sciences. Au fil des pages, s'intéresse aujourd'hui au premier chapitre de son argumentation intitulé « La naissance itérative de la médecine scientifique ». Il y brosse un portrait historique de la médecine depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au milieu du 20e siècle. La médecine dite scientifique s'échelonne sur près de 25 siècles. Selon une idée reçue, Hippocrate, prince de la médecine, aurait sorti cette fameuse médecine de la religion et de la magie pour la faire entrer dans l'ère scientifique. En effet, la médecine hippocratique donc rejette les croyances irrationnelles et n'accorde pas de sens aux maladies. Elles ne sont pas attribuées à la colère des dieux, donc les remèdes ne peuvent pas être les prières ni les incantations. La médecine hippocratique est donc une médecine profane, rationnelle. Les causes des maladies sont naturelles et non pas sacrées. Arrêtons-nous quelques instants sur les bases de la médecine hippocratique. Elle repose essentiellement sur la théorie des humeurs, et les maladies sont liées au déséquilibre de quatre humeurs selon Hippocrate. Le sang, la bile, le phlegme et l'atrabile. Ensuite, trois périodes se succèdent dans la maladie. Tout d'abord, la crudité, c'est-à-dire la formation, l'incubation de la maladie. Puis la coction, qui correspond au temps de cuisson et de mélange des humeurs. Et enfin, la crise, qui correspond à la résolution de la maladie, l'évacuation en quelque sorte des humeurs par les selles, la sueur ou encore les urines. La thérapie du moment est alors d'évacuer ces humeurs par des remèdes, ou également en pratiquant des saignées ou en cautérisant au fer rouge. Attention, la médecine rationnelle n'est pas scientifique, les fondements anatomiques et physiologiques sont encore inexistants. Avançons dans le temps et arrêtons-nous cette fois-ci sur un autre grand nom de la médecine, Galien. Nous sommes alors au 3e siècle après Jésus-Christ. Pour Galien, les maladies peuvent avoir soit des infections communes, liées à un déséquilibre des quatre humeurs, soit des affections particulières, liées à l'atteinte d'un organe déterminé. C'est sur cette dernière proposition que Galien s'est penché et il cherche à découvrir les lieux affectés. En d'autres termes, il réalise un diagnostic. Pour cela, il observe le malade, il l'interroge sur le caractère de ses douleurs. Continuons d'avancer dans le temps et arrivons au XVIe siècle, siècle de la Renaissance. Et c'est Vésale qui bouscule cette fois les connaissances des hommes sur la médecine et sur le corps humain. Vésale, originaire de Bruxelles, est professeur d'anatomie à l'université de Padoue. Et l'université publie en 1543 son traité qui connaîtra un vif succès, De Humani Corporis Fabrica. Ses planches sont diffusées dans toute l'Europe où Vésale y dissèque des corps humains et relève les nombreuses erreurs commises par Galien. Et oui, Galien appliquait indûment à l'homme les constatations qu'il avait faites chez l'animal. Là, pour la première fois et malgré un certain nombre d'erreurs, l'anatomie humaine est décrite et illustrée dans sa singularité. 100 ans plus tard, au XVIIe siècle, deux révolutions biologiques se succèdent, la découverte de la circulation du sang et celle du monde microscopique. Il faut attendre finalement le XIXe siècle pour voir véritablement la science en marche et amener avec elle la médecine. Apparaît tout d'abord à cette période le terme de clinique. Dans les salles de malades des hôpitaux de Paris, la médecine est alors fondée sur l'anatomie pathologique. Elle se réclame d'une observation objective des faits tant anatomiques que cliniques. Arrêtons-nous cette fois-ci sur quelques grands noms de cette période. François-Xavier Bichat, médecin de l'Hôtel-Dieu de Paris, il est le chantre de l'anatomie pathologique et de l'ouverture des cadavres. Il écrivit d'ailleurs « Qu'est-ce que l'observation si on ignore là où siège le mal ? Ouvrez quelques cadavres, vous verrez aussitôt disparaître l'obscurité que jamais la seule observation n'aurait pu dissiper. » Sans utiliser le microscope, Bichat individualise ainsi au sein des organes 21 variétés de tissus qu'il décrit macroscopiquement. autre nom, autre thème, Philippe Pinel, qui domina la première partie du XIXe siècle. Médecin de l'hospice de Bicêtre, puis de la Salpêtrière, membre de l'Académie des sciences, Pinel se consacra à l'étude et au traitement des maladies mentales. En fait, l'essentiel de la psychiatrie française est issu de Pinel et de son élève Esquirol. René-Théophile de Lanec, lui, inventa le stéthoscope. Médecin de l'hôpital Necker, professeur de clinique médicale à la Charité et professeur au Collège de France, il fait réaliser un cylindre de bois troué en son centre, auquel il donne le fameux nom de stéthoscope, du grec stéthos, qui veut dire poitrine, et scopaine, voir. Ainsi, l'audition des bruits du cœur et des poumons permet de prédire les lésions que l'autopsie confirmera. Claude Bernard, quant à lui, est le fondateur de la médecine expérimentale. Attention, exercice de vocabulaire. Il faut, pour faire de la médecine expérimentale, partir d'une hypothèse. Et il faut s'en servir pour découvrir la vérité. Mais plutôt que de se tenir gentiment à cette hypothèse, il faut au contraire chercher à la renverser. Une hypothèse qui a donc été soumise à la méthode expérimentale devient une théorie. Claude Bernard, quant à lui, est le fondateur de la médecine expérimentale. Alors attention, petit exercice de vocabulaire. Il faut, pour faire de la médecine expérimentale, partir d'une hypothèse. Et cette hypothèse, on va s'en servir pour découvrir la vérité. Mais plutôt que de s'y tenir gentiment, il faut au contraire chercher à renverser cette hypothèse. Alors une fois que cette hypothèse a été soumise à la méthode expérimentale, elle devient une théorie. Venons-en à Pasteur et les sciences médicales. Il faut rappeler avant toute chose que Pasteur était chimiste et non pas médecin. On lui a d'ailleurs beaucoup reproché. Ses travaux, échelonnés sur 20 ans, sur la fermentation du lait, du vinaigre et de la bière, prouvent que la fermentation est loin d'être un phénomène de putréfaction. Elle est due à des êtres vivants microscopiques, les levures. Ainsi, en faisant cette découverte, il a pu travailler et dépister deux maladies, la pébrine et la flacherie, qui ruinaient l'industrie des verres à soie dans le sud-est de la France. Entre 1877 et 1895, de nouveaux travaux voient le jour sur les maladies infectieuses des animaux, puis les maladies infectieuses de l'homme. Pasteur travaille sur le principe de l'atténuation de la virulence des germes et de la vaccination. Un heureux hasard conduit Pasteur à découvrir que le vieillissement de la culture du microbe du choléra des poules détermine une atténuation de sa virulence et que l'inoculation de ces cultures de virulence atténuée protège l'animal de l'action des cultures virulentes. En d'autres termes, le virus virulent devient virus vaccin. En Allemagne aussi, à cette même époque, la médecine connaît de grandes avancées. À cette période, elle est même la plus compétente au monde. Outre-Rhin, c'est le nom de Robert Koch qui fait des émules. Il occupe un espace prépondérant dans la bactériologie médicale. Il travaille sur le charbon des moutons, sur l'infection et les désinfectants. Il met au point plusieurs techniques bactériologiques. Et puis, en 1882, il isole le fameux bacille de la tuberculose qui devient très rapidement le bacille de Koch. Envoyé en mission à Alexandrie pendant l'épidémie de choléra en 1883, il y découvre cette fois-ci le bacille virgule qui en est responsable. D'autres missions le conduisent à étudier la peste bovine et équine, le paludisme et la maladie du sommeil, et c'est en 1905 que Robert Koch reçoit le prix Nobel de médecine et de physiologie. Continuons d'avancer dans le temps. Nous sommes cette fois-ci au milieu du XXe siècle. Le développement de la médecine cellulaire et surtout de la biologie moléculaire, de la génétique, de l'immunologie donne à la médecine ses véritables lettres de noblesse scientifique. La médecine devient de plus en plus moléculaire et génétique. Bien sûr, les retombées médicales des progrès de la biologie sont innombrables sur le plan de la connaissance des mécanismes de nombreuses maladies, l'affinement du diagnostic, l'affinement des thérapeutiques, le décryptage du génome, la post-génomique sont encore loin d'avoir dit leur dernier mot. En fait, ces dernières années, la médecine a été envahie par une scientificité considérable. Voilà donc un aperçu du livre de Jacques Poirier qui a publié son ouvrage « La médecine est-elle un art ou une science ?» grâce au Bureau des Longitudes. Cet ouvrage n'est pas disponible en librairie, mais vous pouvez le demander au service des archives de l'Académie des sciences. Il est en vente au prix de 8 euros. À l'intérieur, vous y trouverez 4 grandes parties en plus de cette historique de la médecine. Ces 4 grandes parties sont la reconnaissance institutionnelle de la médecine en tant que science, la médecine dans la science catholique, la médecine qui n'est ni une science ni un art mais une profession, et enfin la médecine entre science et humanisme. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle émission au fil des pages. Au revoir.